Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et ma mission, vous la connaissez, vous montrer chaque jour qu'il y a des hommes et des femmes qui créent, qui innovent et qui agissent pour créer la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur la mobilité professionnelle au travail. Des acteurs français se bougent pour vous montrer que l'idée peut devenir réalité. Elle existe depuis 1954, a su fédérer des indépendants. Aujourd'hui, 580 maisons sont unies derrière l'appellation Relais et Château. C'est l'association qui va bien, merci. Et puis des robots qui tondent grâce à l'énergie solaire. Oui, c'est possible, c'est ce qu'a inventé Viterovert. C'est la solution aujourd'hui sélectionnée au Trophée de l'avenir d'Europe 1. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est ici, tous les midis, sur Europe 1.
Europe 1.
Le numéro d'Europe 1, le standard, vous le connaissez, c'est le 39-21. Composez-le dès maintenant. Venez nous dire, par exemple, Anissa, si vous aussi vous rêvez de changer de travail ou s'il vous arrive de vous dire « je prendrai bien mes valises pour découvrir un job ailleurs sur la planète ».
Je crois qu'on y a tous pensé, mais il y a toujours des petites réticences, des questions qu'on se pose. Eh bien, venez les poser ici, en direct, avec Raphaël Duchemin et ses invités. Ils vous répondront. 39-21, c'est le standard. Et puis, vous pouvez également réagir, témoigner, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et oui, parce que le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle se tient en ce moment. Et c'est une mine pour tous ceux qui ont envie de bouger, mais qui n'osent pas. Et vous allez voir que les acteurs, pour vous y aider, ne manquent pas ici en France. Pour les accueillir à mes côtés comme chaque jour, Elisabeth Assayag est là. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Éric Léandre, fondateur de Quant. Bonjour Éric.
Bonjour.
On sait tous qu'aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui s'allonge, il y a de fortes chances pour que nous soyons amenés à embrasser plusieurs carrières. Mais c'est vrai que se projeter dans un autre métier, c'est prendre un risque. Alors, pour passer de l'imaginaire au réel, il y a des étapes. Bonjour Karine Salnik.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé testunmétier.com. Alors l'idée de départ, c'est justement de faire en sorte que ceux qui ont envie, mais qui n'osent pas, puissent toucher du doigt le métier qu'ils rêvent de faire, c'est ça?
Exactement, c'est oser essayer. Aujourd'hui, tous les dispositifs qui existent, finalement, c'est juste se projeter dans un métier. On s'imagine, on fait un bilan de compétences, on discute avec un conseiller en évolution professionnelle, mais on ne peut pas l'essayer, sauf quand on est en troisième ou quand on sort d'études. Voilà. Et là, quand on a envie de se reconvertir, la proposition de valeur de tester un métier, c'est vraiment de pouvoir essayer concrètement un métier.
Mais comment vous est venue cette idée à vous? Vous avez eu envie de changer de vie?
Alors moi, j'ai essayé plein de métiers. Voilà, je pense que j'aime bien. J'ai essayé restaurateur de meubles, masseuse, maraîchère. J'ai eu envie de changer de métier plein de fois dans ma vie. Et puis à 40 ans, j'ai changé de métier. Donc j'ai déjà cette appréhension et cette compréhension, surtout que c'est difficile de changer de métier. Et puis en accompagnement de plein de cadres que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle, beaucoup m'ont fait la confidence que eux aussi auraient aimé changer de métier, mais qu'ils ne se sentaient pas capables parce qu'ils n'étaient pas sûrs que le métier qu'ils souhaitaient faire allait leur plaire.
Elisabeth, ça donne quoi les chiffres officiels de la mobilité professionnelle?
Alors, ce qui est frappant dans ces chiffres que je vous révèle qui viennent de l'INSEE, ce sont les derniers chiffres, il y a une grande différence entre le privé et la fonction publique. Dans le privé, le taux de mobilité est d'environ 20%. Certes, le nombre de salariés en entreprise peuvent enchaîner des CDD ou des missions d'intérim, donc ça dope un petit peu les chiffres. Néanmoins, 7% des cadres, qui eux sont peu précaires, changent d'entreprise dans l'année. C'est pas énorme, 7% des cadres, c'est selon l'Association pour l'emploi des cadres, mais c'est beaucoup plus que les fonctionnaires.
Elisabeth, la mobilité professionnelle, on peut dire que tout le monde y pense, mais qu'il y a peu finalement de personnes qui sautent le pas.
Mais oui, parce que 2/3 des salariés pensent changer de métier. C'est un baromètre IFOP pour le site de recrutement Monster qui a révélé ce chiffre. Ils pensent que 2/3 des salariés estiment qu'ils changeront au moins 3 fois de métier durant leur carrière. Alors 44% des sondés jugent que c'est un changement risqué. Alors la mobilité professionnelle, elle est rentrée dans les mœurs, au moins intellectuellement on elle est rentrée, mais ce n'est pas considéré comme quelque chose d'anodin, ce n'est pas sans danger.
Karine Salnik, il faut sauter le pas et du coup être dans le concret, c'est-à-dire essayer vraiment le métier qu'on a imaginé. ça donne la possibilité de se projeter davantage.
Bah, c'est quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on s'ancre physiquement et émotionnellement dans un métier, et c'est une façon de voir si ça me plaît, de m'imaginer
pâtissier.
Donc
je vous demande par exemple, j'ai envie d'être fleuriste, vous allez me trouver...
Voilà. Alors je vais comprendre ce que c'est pour vous fleuriste, Raphaël, hein, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous voulez faire des fleurs pour un mariage? Est-ce que vous voulez être dans une grande fleurothèque? Est-ce que vous voulez créer? Vous voulez juste être salarié de chez un fleuriste? Et donc une fois que j'ai bien compris votre projet professionnel, je vais, et où est-ce que vous habitez? Je vais trouver le fleuriste qui va pouvoir vous accueillir. Donc on fait la compréhension du projet et on va jusqu'au recrutement du tuteur qui va vous accompagner dans ce projet.
Que dit notre coach?
Non mais on a parlé quelques instants tout à l'heure. D'abord je trouve l'idée géniale, et surtout elle a trouvé son business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a compris comment le faire, c'est-à-dire qu'elle est allée voir les banques. Tout à l'heure elle m'a fait rire.
Et elle tout à l'heure dit, c'était hors antenne, hein. Je précise pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous
écoutent. Excusez-moi, il y a quelques secondes. Et elle voit les banques et les gens qui doivent se reconvertir, qui doivent partir sur un plan social, c'est la banque qui lui demande de leur trouver une idée d'où aller derrière. Ça, je trouve ça fantastique. Juste une question, comment tu vas financer la suite et qui peut t'aider? Parce que ça, c'est de la tech for good, de la vraie tech for good.
J'espère bien que le coach ici va m'aider.
L'appel est lancé, en tout cas.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui financent ces tests-là. Pour les salariés qui vont perdre leur travail, on a parlé d'un plan social, mais il y a aussi les évolutions des métiers. Parce que je vais rajouter un chiffre, c'est vrai que 13 millions de salariés vont devoir faire évoluer leur métier. Un métier sur deux va être modifié de par l'intelligence artificielle, les évolutions techno qui vont faire que ces salariés-là vont devoir, et il n'y a pas le choix, faire évoluer ces métiers. Donc les entreprises sont prêtes à financer ça.
Oui, parce qu'il y a plusieurs profils, je suppose. Hein. Et Eric le disait, il y a ceux qui se reconvertissent par choix,
par
et puis il y a ceux qui n'ont pas le choix, qui passent par Pôle emploi. Eux aussi peuvent venir vous voir?
Donc il y a 5 millions de salariés qui ont envie de changer. Donc là, le sauter le pas, c'est compliqué. Et puis il y a 13 qui n'ont pas le choix. Aujourd'hui, on s'adresse principalement aux actifs, c'est-à-dire que les gens qui sont en poste et qui ou perdent ou de toute façon dans les prochaines années n'auront plus de travail. Et puis Pôle emploi, aujourd'hui, a des dispositifs pour les accompagner. Donc on s'adresse principalement aux actifs aujourd'hui.
Elisabeth ?
Oui, les entreprises chez qui on va tester, par exemple, le métier de fleuriste. Vous les avez contactés en amont, ou vous allez démarcher l'entreprise qui peut correspondre. Là, on prend l'exemple de Raphaël qui souhaite être fleuriste.
J'ai pris ça totalement au hasard.
Une fois que vous avez son dossier, son profil, là, vous allez contacter les entreprises. Vous ne les avez pas listées auparavant ?
Alors, on en a certains, puisque ça fait 2 ans qu'on existe. Par contre, Raphaël, elle peut habiter dans le Pas-de-Calais. Et j'ai pas toujours le fleuriste qui va bien dans le
thème. À ce moment-là, vous faites la recherche.
Et donc, on va chercher le tuteur et l'engager sur sa responsabilité de faire grandir Raphaël dans son choix d'évolution professionnelle. Et donc, on va lui raconter l'histoire de Raphaël, qu'elle a fait de la radio pendant des années et qu'aujourd'hui, elle a envie de devenir fleuriste. C'est magnifique.
Et ça coûte quelque chose
Oui, ça coûte.
À qui?
Alors, ça coûte à l'entreprise qui finance, ou ça coûte aux testeurs. Il y en a beaucoup de testeurs qui s'autofinancent ces stages sur leur temps de vacances, parce qu'ils n'osent pas le dire à leur DRH.
Et vous parliez des troisièmes, c'est le même délai, c'est le même temps donné passé dans l'entreprise.
En moyenne, ce sont des stages qui vont durer 5 jours, mais on peut monter jusqu'à 30 jours.
Voilà. On reste ensemble, on continue à parler mobilité au travail sur Europe 1 aujourd'hui.
Il est 13h09.
Europe 1.
Et si on partait à l'autre bout du monde? La mobilité, c'est aussi ça, voir de nouveaux pays, de nouveaux horizons. C'est ce que propose Caribou Job. Ça vous donne probablement un petit indice sur la destination. A tout de suite.
Changer de métier, cela fait peut-être partie aussi de vos bonnes résolutions pour 2019. Eh bien, nous avons des solutions pour vous. Vous avez encore des doutes, des questions, vous n'osez pas. Eh bien, n'hésitez pas, venez poser toutes vos questions dès maintenant au 3921 aux invités de Raphaël Duchemin. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Toujours avec notre coach Eric Léandre, fondateur de Quant, et avec Elisabeth qui m'accompagne, Elisabeth Assayag. Faire ses valises, partir, c'est vrai que beaucoup d'entre nous en rêvent sans jamais vraiment passer à l'acte. Barrière de la langue, distance avec les proches sont autant d'obstacles ou de freins au départ. Et pourtant, il y a pour vous aider des structures qui existent. Bonjour Cédric Laribaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé avec votre frère Caribou Job. C'est tout nouveau, en juillet 2017, c'est ça?
Non, 2019.
2018. Oui, j'ai dit 2017, mais vous voyez, j'avais déjà une année de décalage. Tout commence, je crois, par un coup de fil, c'est ça, qui vous vient du Québec?
Exactement. Un vendredi soir à 23h, je reçois un coup de fil d'un ami québécois et qui me demande de l'aider à trouver des candidats pour des postes qu'il a à pourvoir au Québec, au Canada. Donc, suite à ce coup de fil, on réfléchit un peu ensemble. Et puis, suite à ce coup de fil, je contacte mon frère Lionel. Et on décide de prendre contact avec Pôle emploi international. Et une semaine après, on était face à Pôle emploi international qui nous reçoit et qui commence l'entretien en disant « Je veux quand même vous dire que dans ce monde-là, il y a beaucoup de charlatans. » Et nous, on le regarde droit dans les yeux et on lui dit « Ça tombe bien, on en est deux de plus. » Et donc,
ça s'appelle jeter les bases.
Exactement. Et ça lui a plu. On lui a expliqué ce qu'on pensait, là où on en était, ce qu'on pensait faire. Ça, et de là est né un partenariat qui continue et sur lequel on continue à travailler avec Pôle emploi aussi sur tous ces sujets-là.
Voilà. Donc au Canada, notamment au Québec, il y a de l'emploi et Pôle emploi ici est en demande pour envoyer des Français là-bas.
En fait, Pôle emploi a développé une structure internationale qu'elle a subdivisée en plusieurs directions et pour chaque continent ou pays. Il y a des personnes qui s'occupent de promouvoir ce pays-là, de faire la tournée des villes en France pour promouvoir ces pays-là et pour accompagner les gens qui veulent partir et qui sont candidats au départ.
Mais vous devenez facilitateur, si j'ose dire ?
Exactement. En fait, vous l'avez très bien dit au début, Raphaël, c'est que la difficulté, c'est pas tant de trouver un emploi. La difficulté, c'est de se dire, comme pour le changement professionnel, la difficulté, c'est de se dire, j'y vais. Et réellement, j'y vais. Parce qu'on a un nombre incalculable de gens qui sont intéressés, qui même déposent leur CV, mais après, plus de nouvelles. En fait, dès qu'il faut commencer à se poser des questions, à vendre la maison, à vendre la voiture, à faire ses valises, à se projeter, ben là, ça devient très, très compliqué.
Et alors, vous donnez des clés concrètes, justement, c'est-à-dire que vous allez aider avec quasiment du clé en main sur place, vous aidez à trouver une maison, vous aidez à tout ça ?
Oui, alors en fait, nous, on est un mix entre une agence de recrutement, une agence de voyage, une agence d'immigration et une agence de conciergerie. Et le but, c'est de mixer tout cela. Mais pourquoi cela ? Pour répondre à toutes les questions, pour donner toutes les infos, pour accompagner de A à Z les candidats et leurs familles à changer de vie, à partir à l'aventure.
Il y a un âge limite pour partir ?
Il n'y a pas d'âge limite pour partir. Mais en tout cas, ceux qui vont venir travailler avec nous, c'est ceux qui ont besoin d'un emploi pour pouvoir réaliser ce rêve-là et partir à l'aventure.
Justement, l'âge, Elisabeth, on a des critères comme ça qui sont établis.
Alors,
on a quelques infos.
Il y a un âge clé, paraît-il, dans la carrière où on peut adorer ou détester son travail, avoir envie de changer de vie. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été réalisée par le cabinet de recrutement Robert Half, relayée par Bloomberg, donc c'est une étude anglaise. Cet âge, c'est 35 ans. Pourquoi 35 ans ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un âge où l'ancienneté permet aux salariés d'accéder à des postes plus importants dans la hiérarchie, et donc des postes où ils sont davantage exposés au stress, avec une obligation de résultat. Mais dans la mesure où tout le monde ne peut pas monter dans l'entreprise, dans la hiérarchie de l'entreprise, 35 ans, c'est aussi l'âge où l'on peut ressentir la frustration d'aller moins vite que certains de ses collègues et donc d'avoir envie de changer de métier.
Que dit notre coach ?
Il y a des emplois qui sont en sous-tension. Enfin, je pense que c'est ce que tu veux par défaut. Ouais. Donc, nous, déjà, on va se battre pour les garder, ceux-là. mais comment tu fais la différence entre ceux que tu veux faire partir, ceux qui veulent rester ? Parce que tout le monde se bat pour avoir les meilleurs programmeurs, pour avoir l'intelligence artificielle.
Ouais, en fait, nous, on ne se bat pas sur ce marché-là du tout. On est sur vraiment des personnes qui veulent de toute façon partir à l'aventure, qui veulent de toute façon changer de vie, aller au Canada, là pour le coup, mais après, dans nos réflexions,
Québec particulièrement,
au Québec, mais au Canada de manière plus large. Et puis, donc on est en train déjà d'initier des choses pour d'autres pays, les États-Unis, l'Australie, etc. Donc, on est vraiment sur des candidats qui veulent partir à l'aventure. Donc, de toute manière, c'est pas... Voilà, mais c'est aussi clairement sur les mêmes métiers en tension, parce qu'en fait, partout dans le monde, il y a les mêmes métiers en tension. C'est du développeur, c'est du chauffeur routier, c'est des électromécaniciens, donc de la maintenance. C'est tous ces métiers-là pour lesquels on a aussi des difficultés en France et en Europe de manière large. Ben, de manière, voilà. Mais dans ces pays-là aussi, il y a une vraie difficulté à les recruter. Alors, en plus de cela, au Canada, ils recherchent 1 300 000 personnes d'ici 2022. Juste pour donner un chiffre, par exemple, ils cherchent 7 200 pilotes d'ici 2025, alors qu'eux-mêmes en interne en forment, je crois, 500 maximum. Donc, quel que soit le métier,
nous,
que ce soit des métiers...
Et nous, on n'en forme que 4 000, il en faudrait 5 000. Ouais. Et juste une question comme ça, et dans l'autre sens.
Dans l'autre
puisque
sens,
tu fais le pont vers là-bas et que toi, tu es ici... Pourquoi ne pas compléter le pont dans l'autre sens, certains qui voudraient venir nous voir ?
Alors, c'est une idée, mais pour le moment, on est déjà en train de structurer.
La deuxième étape. Voilà, mais il a toujours un petit coup d'avance. Ouais, mais
c'est très bien. J'en reparlerai avec vous.
On parlera argent tout à l'heure, hein, ensemble. Je suis sûre que ça va l'intéresser. Vous restez avec nous, bien sûr. On parle mobilité au travail aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Quitter la capitale pour repartir par exemple en région, ça intéresse beaucoup de Parisiens. Pour attirer du monde, la ville d'Oyonnax ne manque pas de possibilités et vous allez voir qu'elle fait beaucoup d'efforts. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'on parle de mobilité au travail. Vous avez vous aussi envie de bouger, de changer de travail, de région, pourquoi pas même de pays. N'hésitez pas, venez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. C'est dès maintenant au 39-21, Raphaël.
Vous connaissez probablement la ville d'Oyonnax. Eh bien, ça fait 3 ans qu'elle travaille à rendre son territoire beaucoup plus attractif pour évidemment faire venir les gens. Bonjour Olivier Chouine.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes en charge de cette attractivité du territoire. Comment on fait pour vendre un territoire à des gens qui n'y ont jamais mis les pieds ?
Alors c'est un travail d'équipe en vérité. Je suis en charge, mais je suis là en chef d'orchestre.
Il y a forcément une équipe derrière, on est bien d'accord.
D'abord c'est une impulsion politique évidemment, c'est nos élus de la ville d'Oyonnax et de Aubusier Agglomération qui impulse. Et derrière, on a la chance d'avoir un territoire, effectivement, qui sait travailler en équipe, en cohésion. Donc, on monte avec les entreprises, par exemple, là, sur Paris, sur le Salon du Travail. On monte avec l'hôpital, on monte avec les agences d'emploi, on monte avec les agences immobilières.
Vous montez avec du concret, c'est-à-dire avec les gens qui cherchent à employer.
C'est ça. Et avec des solutions, évidemment, quand on leur dit « mais pourquoi vous ne bougez pas ?» mais le logement, etc. Et donc, on leur montre directement les solutions. Ils repartent. Normalement, ils n'ont plus aucune question.
Là, vous êtes arrivé au salon, si mes chiffres sont bons, avec 600 emplois.
Oui, 600 offres d'emploi. L'année dernière, c'était 1800 offres d'emploi qui étaient ouvertes sur la Plastix Valley. Et c'est là, début d'année, donc on en a déjà 600. 300 plutôt dans l'industrie et puis 300 dans les autres secteurs. Et tout niveau de qualification confondu.
Alors Olivier, on va faire un test. J'ai envie de changer d'endroit. Je me dis pourquoi pas Oyonnax. Qu'est-ce que vous me proposez ?
Alors nous, évidemment, quand on vient sur Paris, c'est essentiellement pour rechercher les profils plutôt qualifiés qui nous manquent cruellement. Les demandeurs d'emploi d'Oyonnax, nous avons la possibilité de les faire évoluer. Donc on a des solutions, on va dire, localement. Ici, on est venu notamment avec l'hôpital pour rechercher des aides-soignants, mais pas seulement, des informaticiens, etc. Nos entreprises, eux, c'est plutôt des techniciens. Donc, c'est des opérateurs sur presse, commande numérique, des outilleurs.
Et vous allez pouvoir me trouver, par exemple, un logement ou m'aider dans ces recherches-là ?
Alors, l'idée, c'est ça. C'est qu'on a construit un réseau d'ambassadeurs du territoire. Et donc, si la personne décide de franchir le pas, de venir sur Oyonnax. Déjà, il va arriver à Nurieux TGV, donc la gare d'Oyonnax.
2h20, c'est ça, de Paris ?
2h20 de Paris, voilà. Et on va venir le chercher, on va l'emmener vers l'entreprise chez qui il a des entretiens à passer. On va lui faire un petit tour du territoire, lui montrer que nous sommes un territoire de forêt, de lacs et de rivières. On a 70% du territoire qui est forestier. D'ailleurs, on a aussi une branche qui peine fortement à recruter, c'est les métiers du bois.
Donc, une fois qu'on a fait le tour, qu'on a trouvé, qu'on a vu pourquoi venir à Oyonnax, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une qualité de vie, qu'on a aussi un emploi, qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclic ? Parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui commençaient à délocaliser. D'où ce mouvement d'attractivité, en tout cas le rôle que vous jouez aujourd'hui ?
Alors, nos entreprises ne délocalisaient pas entièrement, mais elles avaient tendance à délocaliser, par exemple, les bureaux d'études pour les emmener sur Lyon. On est à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève. Hein, donc,
c'est votre concurrence, Lyon et Genève ?
On est dans les deux aires d'influence. Alors, on a la chance de ne pas avoir les perturbations que peut provoquer la Suisse au niveau des loyers, notamment des salaires, etc. On est quand même protégé parce qu'on est dans un territoire de moyenne montagne, aux portes du Jura. Donc, voilà, un cadre de vie exceptionnel. Mais je promeux un petit peu mon territoire.
Ah bah oui, c'est ce que vous êtes venu faire.
Et c'est d'ailleurs étonnant parce que les gens ont effectivement le coup de foudre normalement. Les plus grands ambassadeurs de notre territoire, c'est justement ceux qui ne sont pas nés sur le territoire et qui se rendent compte de ce qu'ils ont laissé et de ce qu'ils ont retrouvé ici.
Elisabeth, pourtant, quand on regarde les statistiques, quand on change de lieu, c'est plutôt pour aller dans le sud.
Mais oui, selon l'INSEE, l'Île-de-France a un profil très particulier. C'est un peu la région à part. Entre 15 et 29 ans, on y vient souvent. Mais pour tous les autres âges, l'Île-de-France perd des habitants. Principalement pour ceux qui partent, ils vont vers le sud, ils vont à l'ouest aussi. Et concernant le nord, c'est surtout un retour initial vers son pays.
Et puis changer de pays, on en parlait tout à l'heure. Là, il y a aussi des sites internet qui peuvent nous aider si on a décidé de sauter le pas.
Oui, alors on en a parlé tout à l'heure avec Pôle emploi international, mais pas seulement. Vous avez l'Union des Français de l'étranger. Elle est implantée dans une centaine de pays. Elle compte plus d'environ 200 représentations à travers le monde. Et c'est un réseau qui regroupe des Français qui sont tous ou des francophiles. Tous bénévoles. Vous avez Business France qui a pour mission de favoriser le développement international des entreprises. Là aussi, Business France peut vous aider. Ou la Chambre de commerce France internationale. Ce sont des associations indépendantes de droit local qui regroupent des entreprises françaises, étrangères, qui ont un lien commercial, bien sûr, avec la France.
Alors, notre coach, il part pour Oyonnax ou pas?
En tout cas, je vais essayer de mettre Quant à Oyonnax. Là, je rentre d'Épinal, où on a déjà du monde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son amour de sa région et leur amour de leur région. Ils y vont tous ensemble. Je viens d'une région ou d'un pays, ça dépend la Corse. Où on aime bien aussi être tous ensemble. Je vois ce qui se passe sur la Côte d'Azur. Je pense qu'en dehors d'aller à l'international, je pense que les Français devraient commencer à réfléchir à bouger dans les territoires. C'est une bonne façon aussi de se rendre compte qu'il y a énormément d'envie et d'attraction. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment top. Ce que je trouve dommage, c'est qu'avant de venir, il y a quelques minutes, moi, je ne savais même pas où était Oyonnax. J'ai fait informatique, pas géographie. Alors, je m'excuse de suite auprès de tout le monde. Et 600 emplois et 1300 l'année dernière, c'est juste énorme dans cette période où tout le monde cherche de l'emploi avec tous les types de qualifications. Donc, comment vous allez faire, hors ce salon, pour que ça perdure toute l'année? Moi, c'est ça la question. Et ouais, c'est pour toutes les régions. C'est pas que pour vous, j'aimerais pour tous les autres.
C'est vrai, on a une grosse problématique. Ça freine aujourd'hui notre développement économique. C'est-à-dire que nos entreprises sont obligées de refuser des commandes parce qu'elles n'ont pas les salariés. Donc, on a un vrai problème. Et c'est un problème, c'est pas seulement à Oyonnax, malheureusement, c'est l'industrie en France. Hein. On va travailler. On verra peut-être d'ailleurs des solutions.
On est là pour ça aussi, pour vous mettre en contact et puis... Et puis créer des réseaux et faire
un métier à Oyonnax.
Exactement.
En fait, on fait tester des métiers pour lever les a priori. Parce que s'il y a des soucis de recrutement dans ces métiers en tension, c'est que ça fait pas rêver le bâtiment ou le service, la plasturgie, etc. On ne sait même pas ce que c'est finalement. Et donc, de pouvoir faire tester des personnes ces métiers-là quand les salariés. Non.
Allez, je lève les mains en signe.
C'était vraiment l'idée de pouvoir lever les a priori en faisant testant. Donc c'est un nouveau canal de recrutement. Voilà ce qu'on propose.
Reste ensemble. On finit cette discussion juste après. Vous voulez bien? Allez, ça marche.
Il est 13h29.
Europe 1.
Et on vous attend toujours. Hein, 39-21. Venez nous dire si vous avez envie de bouger. C'est aujourd'hui et c'est sur Europe 1.
La
France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin et toutes vos réactions. C'est maintenant que vous pouvez poser vos questions, témoigner, réagir au 39-21.
Oui, on vous attend et on a un appel d'Isabelle dans le Rhône au 39-21. Elle nous dit quoi, Isabelle ? Elle nous dit qu'elle a une fille qui s'appelle Charlotte, qui a 26 ans, qui est prothésiste dentaire en CDI, qu'elle a senti que ça n'évoluait pas dans le sens qu'elle voulait et que donc elle a décidé de se reconvertir. Aujourd'hui, elle aimerait bien trouver un job en haute joaillerie. Elle cherche du travail dans une grande maison de luxe de bijouterie. Est-ce qu'on peut l'aider, Karine ?
Alors, on n'est pas une agence de recrutement. Donc
qu'est-ce
on va
qu'elle peut
pouvoir
faire ?
Lui permettre de valider que c'est bien un secteur qui va lui plaire ou un métier avant de s'engager dans une formation qui est peut-être une formation adaptée à ce nouveau secteur.
Alors, donc, elle a fait une enquête métier demandée par le Fongessif, hein, me dit sa maman.
Donc, elle a fait une enquête. Et on est bien dans les dispositifs qui existent, donc on se projette et on s'imagine. Nous, ce qu'on va lui permettre, c'est de pouvoir tester et donc de s'ouvrir un réseau finalement. Parce qu'en le testant, vous rencontrez des professionnels et donc vous connaissez mieux le vocabulaire de ce métier. Et peut-être, enfin en tout cas certains de nos testeurs se sont fait recruter. Donc pourquoi pas ?
Donc pourquoi pas passer
qu'elle
par vous pour faire un test et ça ne veut pas
qu'elle
peut-être
s'inscrive
fournir
sur le site testunmétier.com.
Un emploi à
sinon,
la fin.
Sinon à Oyonnax, il y a peut-être
sinon,
un poste.
Alors, j'allais me tourner justement vers Olivier Schwinn. Oyonnax, plasturgie, est-ce qu'il y a peut-être de quoi intéresser Charlotte ?
Oyonnax, le Jura, on est donc à côté de Saint-Claude, les tailleurs de diamants, à côté de l'Ajou, les tailleurs de pierres précieuses, les lapidaires. On travaille énormément avec la Suisse, évidemment. Et donc, si elle cherche dans la joaillerie, eh bien, qu'elle vienne habiter à Oyonnax. Et puis, nous allons pouvoir lui faire
sa
tester
maman sera
certainement
pas d'accord.
quelques métiers dans la joaillerie. Pas de souci.
Je voudrais qu'on parle finance. J'avais une question justement pour vous, Cédric Laribeau. J'ai vu que vous aviez prévu des levées de fonds. Comment est-ce que vous faites déjà pour gagner votre vie en mettant les gens en contact comme ça ?
Alors, donc, pour répondre à votre première question, oui, on a prévu d'aller beaucoup plus loin sur le modèle et pour cela, on veut mettre en place une plateforme digitale qui va être un vrai lieu où tout ce qu'on a prévu puisse se retrouver et qui puisse faciliter la mise en relation, faciliter l'information, faciliter cet échange entre des candidats à l'aventure et des employeurs et avec tous les partenaires qu'on peut avoir ici en France ou au Canada. Donc pour développer cette plateforme, on est en train de monter un dossier de levée de fonds.
Combien ? Parce qu'en principe, c'est la question d'Éric Léandry.
Il y a les dollars dans les yeux d'Éric Léandry.
On a deux. Il me regarde bizarre.
On commence à le connaître.
On a deux volets dans la levée de fonds. Un premier volet de 100 000 euros. Là, c'est pour assurer un recrutement qui nous permet de continuer à travailler sur l'opérationnel, c'est-à-dire faire passer des entretiens et puis accompagner les gens. Et puis, une deuxième levée de 400 à 500 000 euros pour développer la plateforme et toutes les fonctionnalités qui vont bien avec et qui sont au final assez compliquées à développer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette somme-là et on recherche des investisseurs qui croient en notre projet et qui ont envie de s'investir sur ces sujets-là.
Éric ?
Donc le combien maintenant on sait. Et juste derrière le combien, moi je crois que tous les deux vous avez une particularité et je pense qu'il faut absolument, et je pense qu'il y a quelques autres comme vous, vous regrouper rapidement et vous allez voir immédiatement le cabinet du ministre du numérique, du secrétaire d'État au numérique, parce que je pense que vous êtes dans deux choses vraiment très importante et dans deux mois il y a la suite de Tech for Good. Vous êtes dans la Tech for Good et vous êtes dans le problème des métiers en tension et le problème de l'emploi aujourd'hui. C'est crucial, je veux dire, tous ces gens-là à la télé, ils ont ce type de problème. Donc mettez-vous ensemble. BPI, selon moi, doit vous donner les premiers 100 000. C'est ou les premiers 50 000. Et donc, poussez pour que ce soit le cas. Et sinon, la French Tech poussera avec vous. Donc, venez nous voir. On fera ça ensemble, vraiment.
Avec plaisir, Eric.
Merci à tous d'être venus nous parler mobilité professionnelle. Merci d'être venus aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
On se tient au courant. Évidemment, vous nous donnerez des nouvelles.
Il est 13h36. Europe 1.
On reste ensemble et on va s'intéresser à une association qui s'appelle Relais Château. Vous la connaissez tous, elle existe depuis 1954. C'est l'association qui va bien, merci.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, vous nous présentez l'entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, c'est une association, Raphaël.
Ah oui, mais qui regroupe des hôteliers qui ont donc choisi de travailler ensemble. Bonjour Philippe Gombert.
Bonjour.
Vous êtes le président de Relais et Châteaux. L'association compte aujourd'hui 580 membres, alors tous des indépendants. Au départ, cette association, c'est, je peux le dire, hein, une association de résistance en 1954 quand elle démarre.
Alors peut-être pas de résistance, on était dans l'immédiate après-guerre, on avait fini le rationnement et on commençait à envisager des week-ends, des fins de semaine et à aller un petit peu en dehors des sentiers battus.
Ça s'appelait les relais de campagne, c'est
alors,
ça
c'était
le nom
les relais
initial.
De campagne, effectivement, 1954. De la même année d'ailleurs, les châteaux-hôtels s'étaient créés également, donc il y avait vraiment, ça poussait de partout si je puis dire.
Mais l'idée c'était un peu les petits contre les gros quand même.
Oui, c'était surtout ceux qui étaient encore une fois un peu loin de la route principale. Il fallait aller à la découverte de ces maisons et qui d'ailleurs la plupart, et certaines étaient créées par le fondateur de Relais de Campagne, c'était un ancien chansonnier. Donc voilà, et qui a ouvert sa maison, la Cardinale. Voilà, donc c'est et j'ajoute tout de suite, ce sont des hôteliers et des chefs,
oui.
Car Relais Château, c'est à peu près la moitié, pour moitié des hôteliers, pour moitié des chefs.
Alors ils sont au départ quand même assez avant-gardistes. En 74, ils vont se rallier au fameux château hôtel dont vous parliez, parce que les châteaux hôtels ont du mal à entretenir leurs biens, d'où l'idée de Relais et Château.
Voilà, les deux associations se sont unis en 1974, après 20 ans d'existence, de chemin, disons,
parallèle,
exactement, et ont créé les Relais et Châteaux.
Le Relais Château, aujourd'hui, c'est quoi dans l'esprit collectif? C'est un gage de qualité, de luxe à la française?
C'est surtout, oui, c'est un gage de qualité, c'est un gage d'excellence, mais plus encore, c'est un gage de passion et d'engagement. Ce sont véritablement des indépendants qui sont très engagés, qui sont acteurs dans leur environnement, et qui travaillent main dans la main avec des producteurs locaux. Moi, je les vois un petit peu comme...
Ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. C'est vous qui avez remis le local dans les Relais Châteaux.
Alors,
en partie, on a longtemps travaillé Relais Châteaux avec Hermès, notamment. Par exemple ?
Alors, je dirais surtout qu'en fait, en 2014, lorsque nous avons célébré notre 60e anniversaire, c'est toujours un moment pour se poser, réfléchir d'où on vient et qu'est-ce que l'on souhaite faire. Et on a affirmé et posé à l'UNESCO, parce que nous étions dans 60 pays entre-temps, on était partis de France, mais nous étions venus autour de ce qui s'appelait au départ une route du bonheur, hein, la route du bonheur entre Paris et la Côte d'Azur. Et nos pères fondateurs avaient déjà dit, un jour cette route fera le tour du monde. Et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui dans 60 pays.
Que dit notre coach ?
Ouais, en parlant de tour du monde, donc vous prenez maintenant les réservations par internet. Comment ça se passe sur le site de Relais Château et comment vous faites pour le faire connaître en direct plutôt que nos amis de chez Booking ou d'autres ?
Ah bien évidemment, effectivement, nous essayons de promouvoir chacune de nos maisons avec des applications, avec un site internet. Nous sommes une vitrine digitale de nos 580 maisons. Mais comme nous sommes des indépendants, nous essayons à chaque fois d'apporter le plus d'affaires possible en direct. On n'est pas là un écran qui viendrait s'immiscer entre la clientèle d'un de nos membres et notre centrale de réservation. Notre centrale de réservation est au service de nos membres.
Et alors là, j'ai une dernière question. Je vais vous dire ce qui serait vraiment top selon nous. On en aurait besoin pour vous aider. C'est la traduction en multilangue de chacun des propositions de vos membres.
Alors, nous sommes en multilangue.
Sur le site.
Nous avons sur notre site et sur nos applications, nous sommes en 9 langues, incluant le japonais, incluant le mandarin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons d'être fondamentales de Relais Château, c'est de faire ce qu'un membre individuellement ne pourrait pas faire. Ça serait difficile pour un petit hôtelier de 30 chambres de pouvoir avoir une vitrine à Shanghai à travers notre site en mandarin.
Le statut associatif, dites-moi, c'est vraiment important. Vous dites aussi, nos profits sont réinvestis, il n'y a pas d'actionnaires. Hein. C'est vous qui êtes à la manœuvre.
Les actionnaires, ce sont nos membres.
Ouais.
Et le principe, et c'est ça qui est formidable, c'est quelquefois un petit peu difficile à expliquer à nos amis anglo-saxons, qui sont bien sûr membres de l'association et très heureux de l'être. Parce que pour eux, une association à but non lucratif, ça effraie un tout petit peu. Bon, mais en réalité, nous pouvons faire des profits. La seule condition d'une association, c'est que ces ces profits soient réinvestis au bénéfice de nos membres. C'est ce que nous faisons.
Philippe Gombert, 150 relais châteaux en France, les autres à travers le monde. Oui. 43 000 collaborateurs, ça fait du monde.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et je dirais que partout dans le monde, nous sommes en phase de problèmes de recrutement. Et aujourd'hui, une de nos ambitions, c'est que Relais Château devienne, soit reconnu comme marque employeur. Parce que dans nos maisons, nous formons. Nous formons à des savoir-faire uniques. Et ce que nous souhaitons, on connaît la mobilité de nos jeunes dans nos maisons, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent être mobiles à travers notre réseau.
Ouais, c'est aussi pour ça que vous lancez une campagne au mois de mars. Hein. Ça
oui,
va alors participer.
Oui, bien sûr, mais notre campagne, c'est notre campagne depuis près de 10 ans, nous n'avons pas eu les moyens de lancer une campagne. Nous lançons une campagne digitale, Relais Château, créateur de délicieux voyages.
Merci d'être venu nous faire rêver avec ces Relais Château. C'est aujourd'hui l'association qui va bien, merci.
Il est 13h46.
Europe 1.
Restez avec nous, tondre votre gazon, tiens, grâce à l'énergie solaire. C'est ce que propose Vitirover, c'est la solution sélectionnée au trophée de l'avenir d'Europe 1.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et c'est l'heure de la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va soulager bien des jardiniers.
On continue bien sûr à vous présenter les entreprises qui sont en lice pour les trophées de l'avenir d'Europe 1. Ils ont lieu le 11 février. Aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez une innovation, un robot tondeuse qui peut remplacer les désherbants chimiques. Racontez-nous.
Alors, ce petit robot s'appelle Vitirover. Il mesure environ 30 cm de hauteur. Il est peut-être la solution alternative à l'utilisation du glyphosate pour l'entretien des sols. Plutôt que de recourir à quelques grosses machines conduites manuellement et à des produits chimiques, Vitirover propose une multitude de petits engins autonomes. Chaque robot est très maniable. Il permet d'entretenir certains sols, comme par exemple le long des voies ferrées ou les vignes. D'ailleurs, à l'origine, il a été conçu pour évoluer dans l'environnement des vignobles. Il est intégralement produit en Nouvelle-Aquitaine. Une cinquantaine de robots sont déjà en service dans 7 châteaux du Bordelais, sur des sites industriels et à la SNCF.
Bonjour Arnaud de la Fouchardière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé votre entreprise en 2010 du côté de Saint-Émilion. Votre idée avec Vitirover, c'était donc, Elisabeth l'a précisé, d'abord les vignes.
Exactement, ça démarre dans les vignes et c'est un gros avantage dans la mesure où les vignes, c'est certainement un des environnements naturels les plus compliqués. D'abord parce qu'il y a de la pente et de la contre-pente, que les sols sont très chaotiques et surtout qu'on a de l'ordre de 12 000 obstacles par hectare. Donc quand on arrive à faire un robot vraiment autonome et à plus forte raison des flottes de robots vraiment autonomes dans des espaces comme ça, on est beaucoup plus tranquille sur le bord des voies ferrées, dans les postes de transformateurs électriques, dans les fermes photovoltaïques ou dans les postes de capteurs d'eau potable chez Suez, par exemple.
Mais alors, comment vous avez conçu ce robot? Vous avez mis du temps? Ça s'est fait comment?
Ouais. La robotique, ce sont vraiment des cycles longs. Donc, ça a été de l'ordre de... aujourd'hui, on a 8 ans. Et pendant 8 ans, on a fait 5 générations de prototypes successifs pour arriver aujourd'hui à un objet qui soit parfaitement autonome, qui fonctionne en flotte et surtout qui soit pilotable à distance. Donc, nous déployons des troupeaux de robots et ces troupeaux de robots sont supervisés par un berger qui est en fait un technicien de Vitirover qui, à distance, derrière son ordinateur, dans son camion ou depuis le bureau, va pouvoir, si un robot lui demande de l'aide en lui envoyant une notification, prendre la main sur le robot et faire de la maintenance à distance.
Alors, pour bien comprendre, donc Vitirover, le robot, effectue une tonte mécanique, mais lente, en continu, comme ça.
Exactement.
Et il y a juste une personne, comme une tour
à
de contrôle.
Qui va superviser une cinquantaine de robots, qui s'attend vers 100 robots, à distance. Et effectivement, c'est de la tonte mécanique, c'est absolument simple, ça n'est pas du tout sélectif. On a vraiment fait une recherche de minimum et on n'a pas ajouté des milliers de capteurs, de choses compliquées, etc. La machine, on la dépose dans la parcelle au début du mois de mars, globalement, et elle va y rester en toute autonomie jusqu'à la fin de l'été. C'est exactement le modèle de Curiosity sur Mars, mais derrière Curiosity, il y a la NASA avec des milliers d'ingénieurs. Pour nous, il y a simplement un berger pour superviser une cinquantaine de robots.
Que dit Eric Léandre ?
Non, d'abord, bravo, parce que c'est très très dur en France de faire du temps long. 8 ans, c'est très dur, donc ça m'intéressera de savoir comment vous l'avez financé. Et puis la deuxième chose, c'est exactement ce qu'essayent de faire aujourd'hui les Chinois et les Américains. Vous l'avez déjà fait et sans vous, on ne le sait pas. Donc ma question, c'est premièrement, le temps long, comment vous financez ? Deuxièmement, maintenant que vous êtes en avance, Est-ce qu'on peut considérer que vous allez le faire savoir rapidement ?
Alors, temps long, comment est-ce qu'on a financé ? Aujourd'hui, on a levé 3 millions et on a utilisé toutes les armes dont on disposait. C'est-à-dire à la fois, on est installé en région Aquitaine. La région Aquitaine nous a beaucoup accompagnés avec des subventions, des aides remboursables. La BPI, de la même manière. En France, on a une belle organisation pour tout ça. On a fait 3 opérations de crowdfunding. On a monté des projets collaboratifs européens qui nous ont rapporté pas mal d'argent. Ça aussi, c'est du temps long, sur 2 ans, 3 ans. Mais ça peut rapporter des sommes conséquentes. Et donc, aujourd'hui, on a aussi mis de l'argent personnel. On a de temps en temps pas pris son salaire à la fin du mois pour s'assurer qu'on allait payer les ingénieurs en priorité. Et aujourd'hui, on arrive dans une phase dans laquelle, en termes de faire savoir, on a fait beaucoup de choses. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Mais on a aussi été lauréat du prix EDF Pulse cette année. On a été lauréat d'un programme SNCF qui s'appelle le programme Air, grand partenaire, la SNCF. Et puis, on a aussi été lauréat d'une entreprise qui s'appelle Enedis, qui ce sont les postes de transformateurs électriques, enfin, sont des transporteurs d'électricité. On a aussi été lauréat, 2018 a été vraiment une grande année, qui nous a beaucoup mis en valeur, d'une organisation allemande qui s'appelle BayWa. Ça fait 15 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont sélectionné 250 boîtes au niveau mondial et ils en ont retenu 6, dont Vitirover. Donc, avec eux, de la même manière, on va déployer en Allemagne et en Autriche.
Alors, multi-lauréat, combien de salariés aujourd'hui ?
10 salariés aujourd'hui.
Et depuis 2010, il n'y a que 10 salariés.
Ouais, ouais, tout à fait. Mais vous savez, c'est aujourd'hui l'enjeu, c'est pas tellement d'avoir beaucoup de salariés, de lever beaucoup d'argent, c'est d'amener son innovation sur le marché. Et trop de salariés, si par hasard on fait pas suffisamment de chiffre d'affaires, et ben on va dans le mur. Donc on n'a pas toujours été 10. Aujourd'hui, on est 10, et puis on continue à recruter.
Ça s'appelle Vitirover, c'est donc le robot qui nous permet de désherber de manière mécanique.
En supprimant le glyphosate.
Exactement. Et c'est une des entreprises qui est sélectionnée pour les trophées de l'avenir d'Europe 1. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Eric Léandre qui était notre coach aujourd'hui. Nous, on se retrouve dès lundi, Elisabeth, et nous parlerons des bijoux français, bien sûr.